Le 4 mai, les dominicains de la province de Toulouse ont publié un appel aux victimes d'abus sexuels commis par des frères prêcheurs. Cette lettre a été signée par le prieur provincial frère Olivier de Saint-Martin et par notre invité ce matin, ancien magistrat et président de la commission reconnaissance et réparation de la COREF, la conférence des religieux et religieuses en France. Bonjour Antoine Garapon.
Bonjour.
Des frères dominicains de la province de Toulouse ont été accusés de faits graves de nature sexuelle à l'encontre de mineurs, faits qui ont malheureusement été confirmés. C'est ainsi que ce communiqué atteste ces faits. Est-ce que cette action, Antoine Garapon, cette action de vérité publique est le préalable à toute forme de reconnaissance ?
Ah ben je le pense, oui, parce que c'est une manière de chercher activement des victimes qui sont toujours enfermées dans leur solitude et qu'on ne sait pas comment contacter. Et une des premières difficultés qu'on a aujourd'hui, nous aussi bien à la commission que les congrégations, c'est de trouver les victimes et de pouvoir les aider en leur permettant de se manifester. On l'a testé dans plusieurs situations et à chaque fois ça s'est avéré extrêmement positif parce que ça a un effet, c'est que non seulement chaque victime individuellement sort de sa situation de solitude qui est souvent terrible, hein, qui est enfermée dans ce souvenir traumatique, et ça lui permet aussi d'entrer en contact avec d'autres et de créer une dynamique qui est importante pour les victimes et qui est importante aussi pour les instituts parce qu'ils ont un collectif en face d'eux.
Alors, aux côtés du prieur provincial, vous invitez toute personne à se manifester si elle a connaissance, je cite, de faits condamnables commis par un frère dominicain de la province de Toulouse. Comment concrètement, au sein de la commission reconnaissance et réparation, êtes-vous parvenu à formuler un tel appel ?
Eh bien, parce que dans plusieurs situations, les premières qu'on a eu à traiter, on avait des prédateurs qui avaient fait une très très grande série de victimes. Et les victimes éprouvent un sentiment de culpabilité à l'égard de leurs copains ou de leurs amis, leurs camarades, qu'ils n'ont pas réussi à protéger. C'est très singulier, mais c'est la première chose que dit une victime lorsqu'elle sort du silence, elle revient sur le passé, elle dit « Mais je me souviens, et lui, il s'est suicidé après, mais on ne sait pas pourquoi. » Mais et finalement, ça revient toujours à ce fondamental, c'est on se sent responsable des autres, et notamment des plus fragiles. Et donc, il faut savoir que une victime d'abus sexuel éprouve d'abord un sentiment de culpabilité à l'égard de l'agresseur, ça paraît incroyable, culpabilité à l'égard de soi, pourquoi est-ce que j'ai pas réagi, pourquoi je me suis pas enfui, et aussi de culpabilité à l'égard des autres.
Et dans ces communautés que vous accompagnez, ces communautés religieuses, est-ce qu'il y a un travail qui a été fait, un travail des frères aussi entre eux ? Vous avez parlé à juste titre des victimes, mais est-ce qu'il y a un travail qui est fait au sein de chaque congrégation religieuse ?
Alors tout à fait, et c'est un travail qui commence, et c'est un travail d'ailleurs pour lequel on les aide, c'est-à-dire qu'il faut savoir que, et je crois que c'est très bien dit dans la lettre qu'on a fait avec le frère Olivier, c'est précisément de dire que ce devoir de vérité, on le doit à tout le monde, on le doit bien sûr d'abord aux victimes, mais les supérieurs généraux le doivent aussi à leurs frères, parce que eux ont besoin de savoir, et c'est une vérité qui est souvent terrible. Elle est souvent terrible parce qu'ils ont vécu pendant toute une vie de vœux à côté de quelqu'un qui était leur ami, et quelqu'un qu'ils ont énormément partagé, que cette personne avait une vie double, que cette personne était double, et que ça c'est une réalité, et qu'en plus, cette personne a commis des violences sexuelles, qui est quelque chose pour une communauté religieuse dans laquelle la sexualité est exclue, et quelque chose de terrible, c'est vécu comme une violence, il faut les aider, il faut les accompagner à accepter ce fait et bien sûr à le dépasser.
Pourquoi une telle recherche active des victimes d'abus sexuels commis par des frères de la province de Toulouse ? Parce que entre les témoignages reçus lors de l'enquête de la SIAZ et les appels à se manifester lancés depuis des mois, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des victimes qui n'avaient pas encore osé parler ? Et si oui, pourquoi ?
Ah ben, il y en a énormément. Il y a énormément de victimes qui n'ont pas encore osé parler, pour beaucoup de raisons. Pour beaucoup de raisons, certaines n'ont jamais parlé à leur conjoint ou à leur conjointe, jamais à leurs enfants, jamais à leur famille, et elles ont le sentiment qu'elles ont réussi tant bien que mal à surmonter ce fait terrible, parfois très mal, elles ont très mal surmonté, mais que rouvrir ce vieux dossier, ça sera pire. Et l'expérience qu'on a maintenant depuis plus de 6 mois, c'est que c'est le contraire qui se produit. C'est qu'il y a un moment effectivement qui est très pénible, mais il y a aussi un moment, il y a un effet de libération. Il y a un effet de pouvoir recommencer différemment sa vie et de vivre mieux les dernières années qui restent, parce que ce sont souvent des personnes qui témoignent au soir de leur vie.
Oui, donc cette action de vérité est en fait proposée non seulement dans un souci de justice, mais aussi un souci de libération des victimes.
Ah oui, absolument. Un souci de libération et puis un souci d'authenticité, c'est-à-dire que ce que disent les moines ou les religieux qu'on accompagne, c'est de dire oui, c'est vrai que c'est pénible, mais en même temps, on ne vit bien que dans la vérité, surtout dans une communauté religieuse.
Eh oui, évidemment, oui. Antoine Garapan, vous avez été juge pour enfants, vous avez entendu de nombreuses jeunes victimes d'abus sexuels. Qu'est-ce que ces victimes de religieux, aujourd'hui adultes, révèlent de la justice de l'Église?
Bah, une faillite absolue, parce que c'était pour plusieurs raisons. C'est une justice en fait qui est une justice administrative, et le droit canon qui a été le premier droit en Europe, qui est un droit matriciel pour tous les autres droits continentaux, sur le plan pénal, hein, je dis bien sur le plan pénal, il n'est pas du tout à la hauteur. Il n'est pas du tout à l'auteur parce que la victime n'y a aucun droit, parce qu'il n'est pas transparent. Parce qu'il y a des conflits d'intérêts à tous les étages, c'est-à-dire que celui qui doit décider en fait a 1000 autres préoccupations que celle d'honorer la justice, et puis aussi, qui est une véritable difficulté, quand une décision est prise, l'Église n'a absolument aucun moyen de pouvoir vérifier l'exécution de cette peine. Et ce sont autant de thèmes de réflexion. Et donc, je crois que la réforme du droit canon dans sa dimension pénale, en ouvrant ce qu'on avait d'ailleurs préconisé à la CIAZ, en ouvrant à la victime avec une totale transparence de la procédure, avec de véritables tiers impartiaux et avec des peines effectivement exécutées, tout cela doit être revu.
Donc ça, c'est un travail qui est en cours ou qui du moins
Non,
va
je pense
occuper
pas, il
les
n'est pas en
années qui
cours.
viennent.
Non, il n'est pas en cours parce que je crois que là, malheureusement, parce que l'Église est une structure de pouvoir qui n'a pas de tiers. Il n'y a pas de tiers. Il y a toujours, c'est un religieux qui est pris lui-même dans des feux, qui doit obéir à son supérieur et à un tas de comment dirais-je, de réseaux d'influence. Et tout cela, c'est très hostile à l'idée d'un tiers impartial, c'est-à-dire d'un tiers impartial, quelqu'un qui n'a aucun intérêt dans l'issue du litige. Et ça, c'est, je pense que c'est un thème de réflexion plus générale, d'ailleurs, que nous constatons à la commission. C'est-à-dire, à la commission, il y a beaucoup de religieux et de prêtres qui viennent nous parler pour parler d'autres choses, parfois, que des abus sexuels, et qui sont contents de trouver une oreille tierce, une oreille indépendante, une oreille extérieure, pour pouvoir dire beaucoup de choses, leurs inquiétudes, leurs malaises, parfois des informations, mais il me semble que créer, je ne sais pas moi, un système d'alerte, créer des personnes qui sont le plus extérieures possible aux
Des
congrégations
personnes tiers.
pour permettre de régler des tas de problèmes serait une très bonne chose.
Donc, à suivre effectivement un travail à mener. En reconnaissant publiquement la faute de certains des leurs, les frères dominicains sont quand même en quelque sorte des victimes collatérales. Vous l'évoquiez au début avec ces frères qui se découvraient proches d'auteurs de faits délictueux et même criminels. Qu'est-ce que vous pensez de cette souffrance des communautés religieuses?
Je pense que l'action des Dominicains, elle est courageuse, elle est pionnière. C'est la première ou la deuxième des grandes congrégations qui a fait lancer un appel à témoignage. Il y a déjà eu un monastère cistercien et puis mais finalement ils montrent la voie et c'est d'ailleurs peut-être leur vocation aussi de montrer la voie et de regarder le problème en face. Il n'y a rien de plus terrible pour l'Église que de rester sur la défensive. L'Église très courageusement a lancé la CIA, cette commission indépendante d'enquête sur les abus sexuels. Faut souligner que c'est une initiative qui a été lancée et financée par l'Église et ça a été à mon avis très positif parce que précisément elle prenait le taureau par les cornes, elle adoptait une attitude active, proactive comme on dit aujourd'hui. Et les Américains emboîtent le pas et ils montrent la voie parce que c'est difficile, ça a donné lieu à des tas de rumeurs qui sont infondées et ça permet en même temps à des gens de parler. On reçoit des témoignages, des tas de témoignages d'ailleurs à la CRR, et donc ça c'est positif. L'Église ne pourra surmonter cette terrible crise qu'à la condition d'adopter ce type de décision courageuse comme celle
D'action,
qu'ont
oui.
prise les Dominicains.
Action de vérité, action courageuse. Certains médias, pourtant, ont révélé des informations qui relèvent du secret de l'instruction. Comment faire la distinction entre ce qui relève de la justice et qui dépend de la commission que vous présidez, cette commission reconnaissance et réparation de la COREF?
Ah ben, la justice passe d'abord, la justice civile passe d'abord. Et donc nous, on est là en appoint des enquêtes qui sont menées par le procureur. Quand il y en a, il n'y en a pas toujours, hein, parce que il y a des faits qui sont prescrits et d'autres qui ne le sont pas. Et donc la justice est une œuvre commune par définition à laquelle le maximum de personnes doivent contribuer. Et bien sûr que c'est le cette initiative des Dominicains, à laquelle on s'est joint très volontiers, va aider le travail de la justice, aussi bien des services de police et de gendarmerie que de la justice avec un grand J.
Oui, et tant que la justice ne s'est pas prononcée, la présomption d'innocence est à l'œuvre.
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Présomption d'innocence, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent aujourd'hui avec toutes les rumeurs qui sont un peu le prix à payer de l'ouverture et de la transparence. Et je crois que ce n'est que dans quelques mois oui, peut-être même dans quelques années qu'on pourra établir des faits et mieux comprendre aussi des phénomènes. C'est ça le but de cet appel, mieux comprendre qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qui a pu motiver un religieux à tomber dans de telles perversions.
Je précise que les 30 et 31 mai, deux membres de la commission reconnaissance et réparation de la COREF, la conférence, pardon, des religieux et religieuses de France, seront à Toulouse pour écouter ceux qui voudraient se confier. 30 secondes pour nous dire ce que vous attendez de ces deux journées,
Ben,
Antoine Carapon.
rencontrer la communauté des Dominicains, écouter des victimes, faire le point avec frère Olivier de Saint-Martin sur les témoignages de façon à rentrer. Vous savez, la vérité, la libération, la justice, ça ne vient pas comme ça en un jour, comme une sorte d'intervention magique. C'est une construction patiente, obstinée, et ça sera un moment important pour nous du travail en commun avec la province de Toulouse.
Merci beaucoup. Merci Antoine Garapon pour votre
Merci.
éclairage ce matin sur ces affaires douloureuses de pédocriminalité dans la province dominicaine de Toulouse.
Bonne journée.